Il croit que je vais céder et lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Mais on n'est plus assez proches depuis 2 ans pour qu'il sache que je ne suis plus la même. Voyant que je ne réagis pas, il finit par pousser un soupir, pose les coudes sur la table.
« Moi qui croyais que tu serais contente pour moi. »«
Contente ? Comment ça ? Il se fiche de moi ?» Un sourire suffisant modère son expression irritée.
« Je ne pensais pas pouvoir redevenir père. »
Je pars d'un éclat de rire incrédule. « Ce sont pas quelques gouttes de sperme dans un vagin de 24 ans qui feront de toi un père. » Là, il ne sourit plus du tout, mais penche la tête de côté, comme chaque fois qu'il ignore comment réagir en scène. Fais comme si t'étais en pleine méditation et ça passera pour une forme d'émotion. Triste, introspective, contrite, bienveillante. Il a dû oublier que c'est lui qui m'a initiée à la comédie et que ce regard faisait partie d'une des premières attitudes qu'il m'ait enseignée.
« Tu ne crois pas que j'ai le droit de me revendiquer comme père ?»
lâche-t-il d'un ton offensé.
« Alors que suis-je pour toi ?»
Je considère sa question comme rhétorique et tape sur un autre glaçon avant de le glisser dans ma bouche. Et je croque bruyamment dedans. Il ne compte sans doute pas obtenir une réponse. En ce qui me concerne, ce n'est plus un père depuis le soir où ma carrière d'actrice s'est arrêtée, alors que j'avais à peine 16 ans. Pour être honnête, je ne suis pas certaine qu'il ait vraiment été un père avant cette date non plus. On se comportait plutôt comme professeur et élève. Il glisse les doigts dans ses cheveux, parmi ses implants hors de prix sur le haut de son front.
Pourquoi fais-tu ça ? Reprend-il d'un ton irrité. Tu m'en veux encore de ne pas avoir assisté à ta remise de diplôme. Je t'ai déjà dit que j'avais un empêchement.
Non, c'est moi qui ne t'avais pas invité. Là, il n'a pas l'air de me croire.
Pourquoi ?
J'avais que 4 places.
Et ? Je suis ton père, pour quelle raison ne m'aurais-tu pas invité ?
Tu ne serais pas venu.
C'est toi qui le dis ?
Tu n'es pas venu.
Évidemment, Fallon, puisque je n'étais pas invité.
T'es impossible! Maintenant, je comprends pourquoi maman t'a quittée.
Ta mère m'a quittée parce que j'avais couché avec sa meilleure amie. Ma personnalité n'avait rien à voir là-dedans.
Que répondre à ça? Cet homme n'a aucun sens du remords. J'ai beau détester ça, en un sens, je l'envie. Je préférerais lui ressembler plutôt qu'à ma mère. Il ne tient aucun compte de ses nombreux défauts alors que les miens occupent le centre de mon existence. Ce sont eux qui m'empêchent de dormir.
C'est pour qui, le saumon ?
S'enquiert le serveur. On peut dire qu'il tombe à pic. Je lève la main et il dépose l'assiette devant moi. J'ai perdu l'appétit, alors je commence par écarter le riz avec ma fourchette. Et attendez ! Dis-je en relevant la tête. Mais il ne s'occupe plus de moi. Il dévisage mon père avec attention.
Vous ne seriez pas...
Et voilà, c'est reparti. Il frappe la table du plat de la main, me faisant sursauter.
Oh oui, c'est vous, Donovan O'Neill. Vous jouiez le rôle de Max Epcot.
Mon père hausse modestement les épaules, même s'il n'y a rien de modeste en lui. Bien qu'il ne joue plus le rôle de Max Epcot, puisque la série est terminée depuis 15 ans, il continue à se comporter comme une star de la télé. Et les gens qui le reconnaissent le poussent à ça. On dirait qu'ils n'ont jamais vu un acteur de leur vie. On est à Los Angeles, bon sang. Ici, tout le monde fait son cinéma. D'humeur toujours aussi agressive, je pique mon saumon à coups de fourchette quand le serveur me demande de les prendre en photo. Je soupire de résignation. À contre-cœur, je m'arrache à ma place dans le box. Il me tend son appareil, mais je fais non d'un geste de la main et passe derrière lui. Je vais aux toilettes, prenez donc un selfie, il adore ça. Je me précipite dans l'escalier pour m'isoler un peu de mon père. Je ne sais pas pourquoi je lui ai demandé de le rencontrer aujourd'hui. Peut-être parce que je déménage et qu'on ne se reverra plus pour Dieu sait combien de temps. Mais cela valait-il la peine de m'imposer une telle épreuve ? J'ouvre la porte de la première cabine, la ferme derrière moi, me tourne vers le distributeur pour en tirer un couvre-siège jetable que je place sur la lunette des toilettes. À une époque, j'ai lu une étude sur les bactéries infestant les toilettes publiques. C'était la première cabine de chaque stall qui en contenait le moins. Les gens croient que c'est la plus utilisée, alors ils prennent la suivante. Pas moi. C'est la seule où j'entre. Je n'ai pas pour autant la phobie des microbes, mais quand on a passé 2 mois dans un hôpital à 16 ans, on en garde une sorte d'obsession en matière d'hygiène. Une fois sortie de ma cabine, je consacre une bonne minute à me laver les mains sans les quitter des yeux. refusant de me regarder dans la glace. Je m'habitue de mieux en mieux à éviter les miroirs. Pourtant, je capte encore mon image en prenant une serviette en papier. J'ignore combien de temps j'ai passé à contempler mon reflet. Je ne m'habitue toujours pas à ce que j'y vois. De la main, je trace les cicatrices qui courent sur le côté gauche de mon visage, sur ma joue et sur mon cou. Elles disparaissent sous le col de mon chemisier, mais descendent le long du côté de ma poitrine pour s'arrêter juste en dessous de la taille. J'effleure cette zone qui évoque du cuir froncé, et ces cicatrices me rappellent constamment que l'incendie a bel et bien eu lieu, que je n'ai pas juste vécu un cauchemar dont je pourrais sortir en me pinçant le bras. Des mois durant, j'ai porté des bandages sans plus pouvoir effleurer une grande partie de mon corps. Maintenant que ces brûlures sont guéries, il m'en reste les cicatrices, que je me surprends sans cesse à toucher. On dirait du velours froissé, et n'importe qui pourrait se révolter à leur contact autant que par leur apparence. Pourtant, j'aime bien cette sensation. Je passe mon temps à parcourir mon cou ou mon bras du bout des doigts, à lire le braille de ma peau, jusqu'à ce que je me rende compte de ce que je suis en train de faire, et là je m'arrête. Comment peut-on apprécier, de quelque façon que ce soit, le résultat de ce qui a brisé ma vie? Bien sûr, je ne parle que du toucher. Pour ce qui est de l'apparence, c'est une autre histoire. Ainsi, toutes mes brûlures ont fait les gros titres dans le monde entier, et j'ai beau essayer de les cacher sous mes cheveux et mes vêtements, elles restent là. Elles y resteront toujours. Constant rappel de cette nuit qui a détruit ce qu'il y avait de meilleur en moi. Je n'attache pas une grande importance aux anniversaires, mais en me réveillant ce matin, j'ai immédiatement pensé à la date d'aujourd'hui. Peut-être parce que c'était l'idée sur laquelle je me suis endormie hier soir. Voilà tout juste 2 ans que la maison de mon père a été envahie par les flammes et que j'ai failli perdre la vie. C'est sans doute pour ça que j'ai eu envie de le voir aujourd'hui. Je devais espérer qu'il allait se souvenir, dire quelque chose pour me réconforter. Je sais, il s'est beaucoup excusé. Mais comment lui pardonner de m'avoir bel et bien oublié? Je ne passais chez lui qu'une semaine de temps à autre. Mais ce matin-là, je lui avais envoyé un texto pour lui dire que je viendrais pour la nuit. Logiquement, on aurait pu penser que lorsque sa maison a pris feu, il ait commencé par venir me réveiller. Mais il n'en a rien fait. Il avait oublié que j'étais là. Personne ne savait qu'il s'y trouvait quelqu'un jusqu'au moment où on m'a entendu hurler depuis l'étage. Je sais qu'il s'en veut énormément. Des semaines durant, il n'a cessé de demander pardon chaque fois qu'on se voyait. Mais ses excuses ont fini par se faire aussi rares que ses visites et ses coups de téléphone. Mon ressentiment reste très fort, presque malgré moi. Cet incendie n'était qu'un accident. Je m'en suis sortie. J'essaie de me concentrer sur ces 2 idées. Pourtant, c'est plus compliqué quand je me regarde dans la glace. Ou que quelqu'un me regarde. La porte des toilettes s'ouvre sur une femme qui me jette un bref coup d'œil avant de se diriger vers la dernière cabine.
« Vous auriez dû prendre la première, madame. »
Je m'observe encore dans la glace. J'ai longtemps eu une coupe très moderne avec des cheveux qui m'arrivaient aux épaules, mais je les ai laissés pousser ces 2 dernières années, afin de mieux couvrir la partie gauche de mon visage. Je tire la manche de mon pull jusque sur le poignet, remonte mon col pour cacher mon cou. Ainsi, les cicatrices sont à peine visibles et j'arrive à supporter mon reflet. Avant, je me trouvais plutôt jolie. Désormais, je ne fais que vérifier si mes cheveux et mes vêtements me couvrent suffisamment. Bruit de chasse d'eau. Je sors en hâte des toilettes avant que la femme ne quitte sa cabine. Je fais mon possible pour éviter les yeux des gens que je croise. Pas parce que j'ai peur qu'ils voient mes cicatrices, mais parce qu'ils ne me regardent pas. Ou alors parce qu'ils me reconnaissent et se détournent par pudeur. Ce serait sympa pourtant de pouvoir soutenir un regard. Voilà longtemps que cette histoire m'est arrivée et j'avoue que l'attention du public me manque. De retour dans la salle, je repère tout de suite la tête de mon père dans le box. Bon, il est toujours là. En un sens, j'espérais qu'il aurait eu une urgence et serait parti. Dommage que je préfère retrouver un siège vide à la place de mon père. Cette idée me donnerait presque le cafard, jusqu'à l'instant où mon attention est détournée par le type devant lequel je vais passer. En général, je ne fais pas trop attention aux gens, d'autant qu'ils m'évitent autant que possible. Mais là, je croise un regard intense, curieux, ostensiblement posé sur moi.